Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Combien seront-ils sur la ligne de départ pour les européennes? Coup d'envoi officiel ce matin avec l'ouverture du dépôt des listes. On en imagine une trentaine pour l'instant, mais certaines formations pourraient y réfléchir à deux fois avant de se lancer, vous l'entendrez. La peur règne au Sri Lanka. Au moindre bruit, c'est la panique, deux jours après les attentats qui ont fait plus de 300 morts. Des attaques attribuées à des islamistes locaux ont-ils bénéficié d'un soutien logistique étranger? L'enquête cherche à le déterminer. Dans ce journal, nous irons aussi aux États-Unis où le FBI traque une milice à la frontière mexicaine, une milice qui s'en prend aux migrants. Mais commençons par ces mots, ceux de Gaspard Glantz, journaliste indépendant. Il a été arrêté samedi pendant la manifestation des Gilets jaunes à Paris pour avoir fait un doigt d'honneur à la police. Il sera pour cela jugé mi-octobre et d'ici là, il n'a plus le droit d'être à Paris ni les samedis ni le 1er mai. Une décision lourde de sens pour Gaspard Glantz.
Je me rendrai dans la manifestation ce samedi et le 1er mai malgré l'interdiction qui m'est faite.
Pourquoi vous allez y aller malgré cette interdiction?
Parce que je suis journaliste et que c'est mon travail. Et que j'habite à Paris. Moi, je suis journaliste depuis 10 ans. Je suis spécialisé dans les mouvements sociaux. Toutes les marques de médias que je vois autour de moi, j'ai déjà bossé pour vous. Mais à leurs yeux, je suis pas journaliste. Là, ma demande de carte de presse, elle part demain matin. Et je sais très bien qu'avec cette carte, tout ça, ça aurait pas eu lieu. On a atteint un point de non-retour très grave. Alors ouais, je me suis emporté. Ouais, j'ai fait un doigt d'honneur à un policier parce que je m'étais pris une grenade. J'en ai encore le trou dans mon pantalon, si vous voulez voir. J'aurais préféré ne pas le faire. Mais à un moment, si je me fais réattraper samedi dans la manif, qu'ils veulent me mettre en prison parce que je suis journaliste et que je fais que filmer des manifestants, qu'ils le fassent. Je suis journaliste depuis 10 ans et je continuerai à l'être en fait.
Le journaliste Gaspard Glantz s'applaudit à sa sortie du tribunal de grande instance de Paris hier par ses soutiens. Il annonce par ailleurs qu'il va porter plainte contre les violences qu'il dit avoir subies en garde à vue et pendant son arrestation samedi. La campagne pour les européennes va pouvoir officiellement prendre forme. Les listes pour le scrutin du 26 mai peuvent être déposées à partir de 9h ce matin. Et a priori, Stéphane Robert, on part sur une multiplicité des candidatures.
Sur le papier, si on comptabilise les déclarations d'intention de candidature, on dénombre environ une trentaine de listes potentielles. Ça va de grosses écuries comme La République En Marche ou le Rassemblement National, crédité de plus de 20% d'intention de vote, jusqu'à des formations beaucoup plus confidentielles comme le Parti Animaliste, qui compte dans ses rangs l'humoriste Laurent Baffy, ou le Rassemblement des Contribuables Français, avec à sa tête l'inusable Nicolas Miguet. Ce scrutin devrait se caractériser par un formidable émiettement des candidatures. À gauche de l'échiquier politique, puisque personne ou presque n'a réussi à s'entendre, la France Insoumise, le Parti Communiste, le Parti Socialiste, la formation dissidente Génération de Benoît Hamon partent tous en ordre dispersé. Et puis c'est le cas à droite également. Au-delà des deux principales formations, les Républicains et le Rassemblement National, il faudra aussi compter avec les probables candidatures de Nicolas Dupont-Aignan, de Florian Philippot ou encore du représentant de la droite centriste, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Ceci dit, pour passer de la déclaration d'intention au dépôt officiel de candidature, il y a un pas que certains vont peut-être hésiter à franchir. Parce qu'il y a des enjeux financiers importants. Une campagne, ça coûte cher, au minimum plusieurs centaines de milliers d'euros. Or, un candidat et ses colistiers ne seront remboursés de leurs frais de campagne que s'ils réalisent 3% au minimum des suffrages exprimés. Ce qu'on appelle les petits candidats prennent donc le risque de se retrouver à la fois sans élus et avec d'importantes sommes d'argent à rembourser sur leur propre denier.
Et on verra donc qui ose se lancer. On fera les comptes le 3 mai, dernier jour, pour déposer ses listes au ministère de l'Intérieur. Stéphane Robert. Et quand certains visent les sièges de députés européens, d'autres espèrent décrocher la présidence de la Commission européenne. Parmi eux, le chef de file allemand des conservateurs européens, Manfred Weber. Mais sa désignation, Pascal Thibault, n'est pas encore acquise.
Manfred qui, plusieurs portraits consacrés à l'automne dernier en Allemagne même à la tête de liste des conservateurs européens le traduisent bien. Par rapport à un ancien chef de gouvernement comme Jean-Claude Juncker en 2014, Manfred Weber a un déficit de notoriété. Certes, le chrétien social bavarois est élu à Strasbourg depuis 15 ans, il est un poids lourd du groupe parlementaire PPE qu'il dirige depuis 5 ans et il dispose d'un réseau important en Europe comme en Allemagne. Reste à se faire connaître d'un plus grand public, c'est l'objet de la campagne pour sa candidature à la présidence de la Commission européenne que Manfred Weber lance ce mardi à Athènes. Fin mars, il avait précisé lors de la présentation du programme commun de la CDU et de la CSU bavaroise pour ces élections quels objectifs sa famille politique se fixait.
Nous voulons faire la course en tête en Allemagne. Nous voulons en Europe, avec ma candidature comme tête de liste des conservateurs, permettre au groupe parlementaire PPE de rester le plus important au Parlement européen. Et nous voulons diriger l'Europe et façonner son avenir.
Certes, le Parti populaire européen devrait constituer à nouveau le premier groupe parlementaire à Strasbourg après le 26 mai. Mais l'alliance traditionnelle avec les sociaux-démocrates pourrait cette fois ne pas suffire pour disposer d'une majorité. Les libéraux, avec notamment les députés de La République En Marche, pourraient monnayer leur soutien et imposer l'actuelle commissaire à la concurrence, la danoise Margrethe Vestager. Angela Merkel accepterait de lâcher le candidat allemand pour obtenir la désignation de sa ministre de la Défense Ursula von der Leyen comme secrétaire générale de l'OTAN et celle du ministre de l'économie Peter Altmaier comme commissaire.
Pascal Thibault en Allemagne pour France Culture. Elle a été tuée par balle dans des affrontements à Londonderry en Irlande du Nord. Ce matin, la nouvelle IRA reconnaît sa responsabilité dans la mort de la journaliste Lyra McKee. Le groupe républicain dissident qui lutte pour la réunification de l'Irlande présente ses excuses dans le quotidien The Irish News. Verdict confirmé pour les deux journalistes de l'agence Reuters en Birmanie. Ils restent en prison. Décision de la Cour suprême birmane ce matin. Les deux hommes emprisonnés depuis plus d'un an sont condamnés à 7 ans pour atteinte à la loi sur les secrets d'État, après une enquête sur le massacre de 10 Rohingyas au cours d'une opération de l'armée dans l'ouest de la Birmanie. La panique au Sri Lanka. 87 détonateurs de bombes ont été découverts hier dans une gare de bus de Colombo. Nouvelle frayeur après la vague d'attentats sanglants de dimanche. 310 morts, près de 500 blessés. Un bain de sang imputé à un mouvement islamiste local qui pourrait avoir bénéficié du soutien de groupes djihadistes internationaux. Et cela indiquerait, Sébastien Farcy, que des organisations comme le groupe État islamique arrivent à répandre leur influence dans toute cette région de l'Asie du Sud-Est.
Janvier 2016, une série d'explosions et une fusillade tuent 4 personnes dans la capitale indonésienne. 6 mois après, et à l'autre bout de l'Asie du Sud-Est, un massacre a lieu dans une boulangerie pour expatriés de Dhaka, au Bangladesh. Finalement, en 2017, des insurgés djihadistes prennent une ville entière, Marawi, au sud des Philippines. Toutes ces attaques ont un point commun, elles sont réalisées par des musulmans locaux sous la bannière et souvent avec l'appui logistique de l'organisation de l'État islamique, des musulmans asiatiques radicalisés par des extrémistes du Moyen-Orient. L'Indonésie, pays musulman le plus peuplé du monde, est également le plus touché. Une trentaine de groupes radicaux ont prêté allégeance à Daesh, dans le but, pour certains, de créer un califat sur une partie de l'archipel. Le cas du Sri Lanka est toutefois particulier. La communauté musulmane y est très minoritaire, 10% de la population, et elle est relativement riche. Et surtout, elle s'est tenue à l'écart du conflit ethnique qui a déchiré le pays pendant 26 ans. Si l'influence de l'État islamique dans les attaques de dimanche est confirmée, cela prouvera que sa propagande a été plus efficace pour radicaliser ces musulmans qu'une guerre de 2 décennies.
Sébastien Farcy, correspondant d'RFI en Inde. Ces attaques n'ont pour le moment pas été revendiquées. 40 personnes ont été arrêtées. Carlos Ghosn demande sa libération sous caution. L'ancien patron de Renault-Nissan a de nouveau été inculpé hier au Japon pour des accusations de détournement de fonds. Et cela déclenche une nouvelle période de détention provisoire. Une situation qui ne manquera sûrement pas d'occuper les discussions entre Emmanuel Macron et le premier ministre japonais Shinzo Abe, attendu à l'Elysée aujourd'hui. Kim Jong-un et Vladimir Poutine réunis. Le Nord-Coréen rencontrera bientôt le président russe, annonce ce matin l'agence officielle nord-coréenne, sans beaucoup plus de détails. Elle opère le long de la frontière mexicaine, le FBI est à ses trousses. Une milice armée est dans le viseur des Américains. Son chef, Larry Mitchell Hopkins, a été arrêté et présenté à la justice hier. Des vidéos postées la semaine dernière ont provoqué un tollé. Elles montrent des centaines de migrants illégaux détenus en plein désert, Loïc Loury.
Guns, God and Guts, comprenez les armes, Dieu et des tripes, voilà à entendre Larry Mitchell Hopkins les racines profondes de l'Amérique. Cet homme de 69 ans était à la tête des United Constitutional Patriots, une milice armée autoproclamée protectrice de la frontière. Son casier judiciaire s'étire au moins sur une vingtaine d'années, mais ce n'est qu'en 2017 que le FBI s'intéresse à lui et découvre lors d'une perquisition un véritable arsenal. Aujourd'hui, il risque à cause de cela 10 ans de prison, d'où cette question. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour procéder à son arrestation ? Celle-ci en tout cas suit de près la publication sur Facebook de plusieurs vidéos de cette même milice, des hommes en tenue de camouflage surveillant des centaines de migrants, dont des enfants, dans le désert du Nouveau-Mexique. Les images ont choqué jusqu'au gouvernement mexicain et mis au centre de l'attention ces groupes armés qui pullulent à la frontière. Si de telles milices ne sont pas nouvelles, les saillies de Donald Trump contre les caravanes de migrants ont pu accroître leur motivation. Jim Ben Kelvy, qui patrouillait avec Larry Hopkins, dénonce lui un coup monté. Nous continuerons, dit-il, à patrouiller jusqu'à ce que le mur de Donald Trump soit construit.
France Culture à New York avec Loïc Loury. Il n'a pas pu les terminer. Les mémoires inachevées de Prince seront publiées en octobre. Le chanteur américain avait commencé à s'y atteler un mois avant d'être emporté par une overdose à 57 ans. Le temps se gâte un peu aujourd'hui, surtout près de la Méditerranée, avec pas mal de pluie ce matin, et du côté du littoral atlantique où l'on attend des orages cet après-midi. Ça baisse un peu aussi côté thermomètre, de 16 à 23 degrés à la mi-journée.